une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 2. Vers la ségrégation raciale.
Deuxième partie.
L'esclavage existait dans les États africains, et les Européens en prirent parfois prétexte pour justifier leur propre traite des esclaves. Cependant, comme le souligne Davidson, le statut des esclaves en Afrique était très proche de celui des serfs européens. Autrement dit, de l'écrasante majorité de la population européenne. Si la condition des esclaves africains était très dure, ils conservaient néanmoins certains droits que les esclaves transportés en Amérique n'avaient plus. Ils étaient à milieu du bétail humain qu'on trouvait dans les cales des bateaux de la traite et sur les plantations américaines. Au royaume Ashanti, dans l'ouest africain, un observateur remarquait qu'un esclave pouvait se marier, posséder des biens, voire posséder lui-même un esclave, prêter serment, être considéré comme un témoin digne de foi et, pour finir, hériter de son maître. Un esclave Ashanti devient, 9 fois sur 10, membre adoptif de la famille, si bien qu'avec le temps, leurs descendants intimement mêlés et parfois même mariés dans la parenté du maître auront bien du mal à déterminer précisément leurs origines. Nous n'avons certes pas l'intention de vanter les mérites de l'esclavage africain. Mais il était d'une toute autre nature que celui qui sévissait sur les plantations et dans les mines américaines, où il durait toute la vie, était psychologiquement écrasant. Défaisait les liens familiaux et interdisait toute projection dans l'avenir. Il manquait à l'esclavage africain les deux fondements qui firent de l'esclavage américain le plus cruel de toute l'histoire de l'humanité. Le désir frénétique de profit illimité, caractéristique de l'agriculture capitaliste, et la réduction de l'esclave à l'état de moins qu'humain par le biais de la haine raciale, fondée sur l'évidence implacable de la différence de couleur, le blanc étant le maître et le noir l'esclave. Capturé à l'intérieur du continent africain, bien souvent par des noirs pris eux-mêmes dans le système de la traite, ils étaient ensuite vendus sur la côte, puis parqués avec des individus de tribus différentes et parlant souvent des langues inconnues. Les conditions mêmes de cette capture et de ce commerce apparurent aux Africains noirs comme la confirmation écrasante de leur vulnérabilité face à une force supérieure. Ces marches en direction de la côte, parfois sur plus de 1500 km, avec des captifs enchaînés par le cou et continuellement menacés du fouet et du fusil, étaient de véritables convois de la mort. 2 prisonniers sur 5 environ en mouraient. Une fois sur la côte, ils étaient enfermés dans des cages jusqu'à ce qu'on vienne les y chercher pour les vendre. À la fin du XVIIe siècle, un certain John Barbour évoque ces cages de la côte de l'or. À mesure que les Noirs de l'intérieur du pays arrivent à Fida, ils sont parqués dans des enclos ou emprisonnés près de la plage, et lorsque les Européens sont sur le point de les emmener, on les sort et on les conduit dans un vaste espace où le médecin du navire les examine sous toutes les coutures et dans les moindres détails. Hommes et femmes sont totalement nus. Ceux que l'on juge forts et valides sont mis à part. Et leur poitrine est marquée au fer rouge des sceaux des différentes compagnies hollandaises, anglaises ou françaises. Les esclaves ainsi marqués retournent dans leur enclos, où ils attendent parfois 10 à 15 jours avant d'embarquer. Ils étaient ensuite entassés sur les navires, dans des espaces à peine plus grands que des cercueils, et enchaînés les uns aux autres, dans la fange humide et noire des cales, suffoquant dans l'odeur de leurs propres excréments.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Dans de telles conditions, un tiers environ des Noirs transportés outre-Atlantique mouraient. Mais le profit était tel, bien souvent le double de l'investissement de départ en un seul voyage, que le trafic demeurait rentable pour les négriers. Les Noirs continuèrent donc d'être entassés dans les cales comme la plus vile des marchandises. Le commerce de la traite fut d'abord dominé par les Hollandais, puis par les Anglais.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people.
En 1795, Liverpool, qui comptait plus de 100 bateaux destinés au transport d'esclaves, représentait la moitié du commerce européen d'esclaves.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
Quelques Américains de la Nouvelle-Angleterre s'y mirent à leur tour, et en 1637, le premier transport américain d'esclaves, le Desire, quittait Marblehead.
Moses,
Moses.
Sa soute était compartimentée en petites cellules de 60 cm sur 1,80 m, équipées de barres et de chaînes. Jusqu'à 1800, 10 à 15 millions d'esclaves ont été transportés aux Amériques, sans doute le tiers seulement des individus capturés en Afrique. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage, pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne.
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land, tell old Pharaoh
to let my people go.
Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe. Avec tout cela, le besoin désespéré de main-d'œuvre des colons de Jamestown, l'impossibilité d'utiliser les Indiens, la difficulté d'utiliser des Blancs, et la disponibilité des Noirs, toujours plus nombreux sur le marché si juteux de la chair humaine et si facile à contrôler, tant les épreuves qu'ils avaient subies, quand elles ne les avaient pas tués, les avaient laissés dans un état d'impuissance aussi bien psychique que physique. Rien de surprenant à ce que les Noirs fussent les victimes idéales de l'esclavage. En dépit de tous ces préjugés concernant la noirceur, comme en dépit de la suggestion spécifique des Noirs vis-à-vis des Blancs dans les Amériques du XVIIe siècle, il existe des preuves que, lorsque Blancs et Noirs se trouvaient confrontés à des problèmes communs, à un travail commun ou à un ennemi commun, en la personne de leur maître, ils se comportaient les uns envers les autres en égaux. ainsi que le dit Kenneth Stamp, éminent commentateur de l'esclavage.
Les serviteurs noirs et blancs du XVIIe siècle étaient étonnamment peu soucieux de leur évidente différence physique. Blancs et noirs travaillaient ensemble et fraternisaient. Le simple fait que l'on ait dû, finalement, édicter des lois interdisant de tels contacts démontre suffisamment ce fait.
En 1661, une loi fut votée en Virginie qui stipulait que, au cas où un serviteur anglais s'enfuirait en compagnie d'un nègre, il devrait passer quelques années supplémentaires au service du maître de ce dernier. En 1691, la Virginie se déclare en faveur du bannissement de tout individu blanc, homme ou femme, qui, étant libre, se sera marié avec un nègre, un mulâtre ou un indien, homme ou femme, et libre ou non. Il y a un monde entre le sentiment d'étrangeté, voire de crainte, éprouvé devant la différence de couleur et la réduction pure et simple en esclavage de millions d'individus noirs tels que cela eut lieu dans les Amériques. Le passage de l'un à l'autre ne peut s'expliquer simplement par une aversion naturelle. En revanche, on peut l'appréhender assez facilement comme le produit de conditions historiques. En fait, l'essor de l'esclavage accompagne celui du système des plantations. La cause en est donc aisément imputable à toute autre chose qu'à une quelconque répugnance raciale naturelle. Le nombre des colons blancs, libres ou serviteurs sous contrat pour une durée de 2 à 7 ans, ne permettait pas de subvenir aux besoins en main-d'œuvre des plantations. Aux environs de 1700. La Virginie comptait 6000 esclaves, c'est-à-dire un douzième de sa population. En 1763, ils étaient 170 000, autrement dit, près de la moitié. Les Noirs étaient certes plus faciles à réduire en esclavage que les Blancs ou les Indiens, mais cela n'allait tout de même pas de soi. Dès le début, les Noirs et les Noirs importés se soulevèrent. Mais cette résistance fut réprimée et l'esclavage finit par concerner 3 millions de Noirs dans le Sud. Pourtant, malgré des conditions de vie atroces, menacées de mutilation et de mort, les Afro-Américains n'ont jamais cessé, durant les deux siècles qu'a duré l'esclavage en Amérique du Nord, de se rebeller. Mais les insurrections organisées furent peu nombreuses. Le plus souvent, ils exprimaient leur refus de se soumettre en tentant de s'enfuir. Plus souvent encore, ils pratiquaient une sorte de sabotage, des grèves perlées ou bien quelques autres formes subtiles de résistance qui affirmaient, à leurs yeux et à ceux de leurs frères et sœurs du moins, leur dignité d'être humain. On estime qu'environ 50 millions d'Africains furent les victimes, mortes ou vivantes, de l'esclavage pendant ces quelques siècles que nous considérons comme les origines de notre civilisation occidentale moderne. Cette civilisation dominée par les planteurs et les négriers de l'Ouest de l'Europe et d'Amérique, régions prétendument les plus avancées du globe.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.